Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 15 août. Des orages ont éclaté hier à Lyon, trop peu pour avoir un véritable effet sur les sols rendus extrêmement secs par la canicule. Encore des feux de végétation dans la région, notamment dans l'Ain, dans la Loire et aussi sur les hauteurs de Vaux-en-Beaujolais. Une centaine de clients de l'hôtel Oco situé au niveau du pont Lafayette ont été relogés hier soir à la Tour Crayon, Radisson Blouf, en raison de l'éclatement d'une canalisation d'eau. Le parking de l'hôpital Lyon-Sud va devenir payant à compter du 30 août. Des nouvelles de Navia, la navette sans chauffeur, dans cette édition. Le siège de Boiron va se doter d'ombrières photovoltaïques sur ses parkings. Et puis on aime beaucoup sur Lyon Demain vous offrir des témoignages inspirants, en particulier lorsqu'il s'agit de reconversion utile pour la préservation de notre planète. La saponification à froid est une méthode de fabrication artisanale qui permet d'obtenir des savons doux pour la peau. C'est aussi un procédé écologique car on consomme très peu d'énergie en fabriquant ces savons. Marie Jacquemin est originaire de Polémieux-Mondeur. Après avoir travaillé dans le marketing, elle a décidé de se reconvertir et de se former à la savonnerie. Rencontre dans ce quart d'heure lyonnais.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La station météo de Bron a enregistré hier son plus haut cumul de précipitations, un peu plus de 16 mm depuis le début du mois de juillet. La température maximale a chuté à environ 25 degrés, soit près de 3 degrés de moins par rapport aux normales saisonnières, avec un peu moins d'une heure et demie d'ensoleillement hier. Ce lundi sera plus ensoleillé avec une température maximale qui ne dépassera pas les 30 degrés. 237 sapeurs-pompiers munis de 65 engins ont dû être mobilisés pour des feux de végétation dans le département de l'Ain, 40 soldats du feu avec 17 véhicules pour les cordes fermes, et ce, rien que pour la nuit de samedi à dimanche. La pluie arrivée dimanche matin a quelque peu rassuré. Le feu de forêt qui s'était déclaré à Saint-Bois dans le Bugey, dans une zone escarpée, difficile d'accès, a pu être maîtrisé. 4 groupes d'intervention feu de forêt ont été engagés. 10 hectares sont quand même partis en fumée. Une reconnaissance doit être réalisée ce lundi. La foudre s'est abattue par ailleurs dimanche sur le toit d'une maison à Saint-Trivier-sur-Moignan. Aucune victime à déplorer, mais l'impact de foudre a provoqué un début d'incendie sur la toiture et une bonne partie de la maison est endommagée. Un incendie s'est déclaré également sur les hauteurs de Vaux-en-Beaujolais samedi après-midi. Dès le début de la soirée, le feu était fixé après avoir détruit 6000 m2 de végétation. 7 membres du groupe d'intervention protection, prévention, sauvetage et sécurité, le GIPS de Lyon, ont pris la route vendredi soir pour se rendre en Gironde, où sévissent de violents incendies. Le GIPS est une ONG qui vient en aide aux personnes lors de situations catastrophiques. Les sauveteurs villeurbanais doivent mener en Gironde des opérations de surveillance de points sensibles, de noyage, de tronçonnage et des extinctions de fumerolles. Sa mission n'est pas d'intervenir sur l'incendie en lui-même, mais de s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas de reprise de feu. Les fortes pluies hier matin auront eu assez peu d'effet sur les sols rendus extrêmement secs par la canicule des dernières semaines. Tombées en quantité trop importante en peu de temps, l'eau a beaucoup de mal à pénétrer les sols et a le plus souvent ruisselé. De nouveaux orages sont attendus heureusement mercredi soir.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
La rupture d'une canalisation au Quai Sarail à hauteur du pont Lafayette a créé une inondation du quartier. La canalisation défaillante a été localisée. Les services de Veolia devraient se rendre sur place pour procéder à la réparation dès ce lundi. Certaines rues étaient encore impraticables hier soir. La centaine de clients de l'hôtel Oco situé au niveau du pont Lafayette ont été relogés à la Tour Crayon au Radisson Blouf. Comme d'autres hôpitaux lyonnais, le stationnement à Lyon-Sud va devenir payant à partir du 30 août. La tarification est d'ores et déjà disponible sur le site internet des Hospices Civils de Lyon. Objectif, éviter le stationnement de longue durée et préparer les futurs travaux et leur impact sur le stationnement à court terme. La capacité du parking va être augmentée jusqu'à l'arrivée du métro pour atteindre 1770 places en 2023. Le parking restera gratuit pour le personnel qui bénéficiera de 1200 places réservées. Un remboursement forfaitaire des frais de parking des patients sera possible par l'assurance maladie. Des nouvelles de Navia, la navette sans chauffeur conçue et produite par l'entreprise villeurbanaise, est exportée aux États-Unis pour une expérimentation d'un an. La ville de White Bear Lake, située à côté de Minneapolis dans le Minnesota, vient d'en faire l'acquisition. La navette permet désormais de desservir une zone vierge de transport partagé. 10 personnes maximum peuvent être transportées en même temps sur un trajet de 2,5 km avec 4 arrêts. Pour réaliser l'itinéraire complet, la durée est estimée à 20 minutes. Le véhicule circulera du lundi au vendredi le matin. Son accès est gratuit pour cette première phase d'essai. À Lyon, Navia avait été testé à la Confluence pendant 4 ans et à Décines pour relier le Grand Large au Parc Olympique Lyonnais. Navia propose des navettes autonomes, mais jusqu'à présent, ces navettes doivent compter un pilote pour pallier un problème éventuel de sécurité. L'entreprise villeurbanaise a signé en juillet dernier un accord financier de 36 millions d'euros avec le groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï. D'ici 2 ans, le siège de Boiron sera doté d'ombrières photovoltaïques. Le laboratoire pharmaceutique va déployer ses ombrières photovoltaïques sur le parking de son siège à Messimi. La puissance de 2,4 MW servira en autoconsommation. Le leader mondial de l'homéopathie a signé un accord avec CVE pour l'installation. Avec 11 000 m² d'ombrières, l'installation sera opérationnelle au printemps 2024. Ce sera l'un des plus importants projets de ce type en France. Cela devrait permettre de fournir 13% de la consommation annuelle du siège de Boiron.
Aujourd'hui, dans les guerres, les bombes pleuvent sur les hommes, les femmes, les enfants, les civils, innocents. Je supporte pas de savoir ça et de ne rien faire. Ça me révolte. Pas vous? Pour manifester notre colère, lançons nos pompes contre leurs bombes. Avec Handicap International, élevant des pyramides de chaussures à la hauteur de notre révolte.
Et la pyramide de chaussures à Lyon, c'est le 24 septembre, place Bellecour.
Bonjour Marie Jacquemin.
Bonjour.
Marie Jacquemin, vous avez une activité qui est un petit peu particulière dont on va parler. Il s'agit de produire des savons, ça s'appelle Jack Savonnerie. Expliquez-nous un petit peu d'abord la genèse de ce projet.
Oui, alors du coup, j'ai lancé du coup cette marque il y a quelques mois. Je développe et je fabrique du coup des savons doux à partir d'ingrédients naturels. J'utilise des argiles et des ocres du Vaucluse pour les couleurs. Et des parfums naturels à base d'huile essentielle. Et donc, du coup, j'ai commencé à développer ce projet il y a un an à peu près. Et je fabrique aujourd'hui les savons sur Polémio Mondor.
Et vous étiez avant dans le marketing. Qu'est-ce qui vous a, à titre personnel, poussé à faire cette activité?
Oui, c'est ça. Du coup, je travaillais dans le marketing, dans le secteur du jouet. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé, je pense comme beaucoup de personnes, à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, à l'envie peut-être de faire autre chose. Et je fabriquais déjà, moi, à la maison, des cosmétiques naturels. Je fabriquais déjà mes shampoings solides, des produits pour la maison. Et donc, à un moment donné, j'ai découvert la saponification à froid, qui est la technique de fabrication que j'utilise aujourd'hui. Et je pense que ça a été un petit peu un déclic. Je me suis dit que finalement, ça me correspondait bien, ça me plaisait beaucoup, ça me permettait de créer vraiment une marque à mon image, de créer vraiment de toutes pièces des savons, faisant preuve de pas mal de créativité. Donc voilà, donc je suis partie sur cette idée de créer ma savonnerie. Et du coup, ça fait maintenant un an que j'ai commencé à développer le projet et que maintenant, les savons ont vu le jour depuis 3 mois et sont disponibles sur ma boutique en ligne.
La saponification à froid, vous avez prononcé le mot, c'est quoi exactement?
Oui, alors c'est une technique de fabrication artisanale qui est une technique assez écologique parce qu'on utilise très peu d'énergie. En fait, on ne va pas chauffer la pâte à savon, on va mélanger des huiles végétales avec un alcali, en l'occurrence de la lessive de soude, et la réaction de saponification va se créer un peu toute seule. Et le principe, en fait, c'est qu'on va découper le savon au bout de quelques jours et on va le mettre à sécher. C'est une période qu'on appelle la cure, ça dure 4 à 6 semaines pour que les savons soient prêts et puissent être utilisés et vendus.
Ça demande quel équipement? Vous avez quoi pour fabriquer ces savons?
Alors pour les fabriquer, c'est des équipements. Alors j'ai des grands moules à savon, des découpeurs aussi qui me permettent de faire des grandes quantités de pâte à savon. Et après, c'est du matériel, un peu comme du matériel de cuisine finalement. J'ai des grands récipients, des grandes spatules, des grands fouets. Donc voilà, ce qui permet, et un mixeur qui permet d'enclencher la préparation. Donc voilà, c'est un mélange entre du matériel de cuisine en fait et certains matériels qui sont vraiment faits pour la savonnerie.
Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie vos savons des autres?
Alors moi, j'ai un univers qui est assez coloré. C'est vrai que je voulais à la fois un univers naturel, utiliser que des produits naturels, et en même temps proposer vraiment des savons voilà dans un univers coloré avec des parfums originaux, des parfums gourmands. Donc je suis partie vraiment sur des parfums, par exemple on a le grenade passion, amande pistache, yuzu mandarine, voilà des senteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver et qui sont fabriqués, c'est vraiment des parfums naturels à base d'huile essentielle.
Et sur un produit aussi classique que le savon que tout le monde utilise, on arrive justement comme ça à innover ?
Je pense que oui, je pense qu'on peut toujours trouver des nouvelles idées, des nouvelles recettes, des nouveaux parfums. Donc oui, je pense qu'on peut innover et je pense qu'il y a plein de façons d'aborder la savonnerie. Et justement de proposer quelque chose qui nous ressemble et t'adresser à des personnes différentes. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de personnes qui justement aujourd'hui utilisent encore des gels douches et connaissent pas forcément les savons, ou d'autres personnes qui utilisent déjà des savons, mais voilà, d'autres types de savons. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de gens qui ont envie vraiment de découvrir ce type de fabrication.
En quoi sont écologiques vos produits par rapport à un produit traditionnel?
Du coup, c'est des produits où j'utilise que des ingrédients naturels, donc il n'y a vraiment pas du tout d'ajout synthétique dans les produits. Et c'est des savons qui sont fabriqués aussi d'une manière effectivement qui est artisanale. On n'utilise quasiment pas d'énergie, on ne chauffe pas. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est plus lent. Comme je disais, il y a jusqu'à 6 semaines de temps de séchage pour pouvoir utiliser les savons. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'utilise quasiment pas d'énergie pour le faire. Il faut juste être patient.
Alors, il faut être patient, il faut les fabriquer. Est-ce que vous accordez une part de votre temps un petit peu à la R&D, à la recherche et développement ? Est-ce que tous les jours, on peut se réinventer ?
Oui, je pense qu'il y a toujours un moment donné de la recherche et développement qui continue un peu en fond pour les futurs développements, parce que ça prend du temps. Il faut faire tester les recettes. Ensuite, il faut les faire valider. Donc, c'est vraiment, il faut anticiper. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de finaliser mes recettes de shampoing solide que je vais lancer du coup sur la fin d'année. Donc il y a toujours un temps, on est toujours en train de réfléchir au prochain produit, à la prochaine recette, effectivement pour être prêt dans les temps.
Et quand vous dites valider, ça veut dire quoi ?
Alors en fait, la savonnerie, c'est encadré par la réglementation cosmétique européenne. Donc chaque recette doit être validée par un toxicologue et on n'a pas le droit de commercialiser un produit sans avoir toutes ces validations. Donc c'est des validations qui prennent du temps, qui coûtent aussi de l'argent et donc c'est très important de passer par tout ce processus pour proposer des produits qui respectent bien les normes et la réglementation.
À qui vous adressez finalement ? Quel est votre client ou votre cliente recherchée ?
C'est une cible très large parce que finalement les savons aujourd'hui, même si c'est beaucoup les femmes qui achètent, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent aussi. Donc j'ai beaucoup d'hommes dans ma clientèle, même plus que ce que j'imaginais, qui sont à la recherche justement de ce type de savon, qui aiment utiliser des savons aussi. Donc c'est vraiment une cible très large sur les savons. Les enfants s'y intéressent aussi, des assez jeunes aussi. J'ai des personnes qui ont autour de 18-20 ans qui s'intéressent beaucoup. Donc c'est une cible, une cible très large.
On vous trouve comment ? Comment on trouve vos produits ? Ils sont physiques ou est-ce qu'on les trouve uniquement sur Internet ?
Alors du coup, les produits, on peut les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc c'est jacksavonnerie.fr. Et ils sont également vendus dans 2 points de vente. Il y a Bulle en Vrac sur Trévoux et L'Épimont, qui est l'épicerie de Polémio Mondor.
Merci Marie-Jacquemin.
Merci à vous.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Le stade du Moustoir, dont une grande partie de la surface de jeu était complètement jaunie, était-il vraiment impraticable ? En tout cas, sous la pression de Jean-Michel Aulas, la Ligue de football professionnel avait décidé vendredi de reporter le match Lorient-OL, qui aurait dû se tenir dimanche à 13h. Il était possible de jouer sans mettre en danger l'intégrité physique des joueurs, en tout cas commenté hier le président du FC Lorient, Loïc Ferry. Dans un tweet adressé à ses supporters, l'homme fort du club lorientais estime que le report a été acté à cause de pression de la part de l'OL qui a menacé la Ligue de football professionnel de demande de dommages et intérêts en cas de blessure. La commission des compétitions a préféré annuler malheureusement ce match, privant nos spectateurs d'une belle fête au Moustoir ce 14 août. Des accusations auxquelles le président lyonnais a répondu sur Twitter immédiatement. Aucune pression, juste du bon sens et de la logique qui aurait évité cette situation pour nos 500 supporters et nos équipes. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n'aurait jamais dû supporter 6 journées de festivités. Très grave, écrit et conclut Jean-Michel Aulas dans son tweet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée.